Nos milieux de culture, les produits chimiques qu'on utilise, les différents tubes,
Vos élèves, c'est majoritairement des hommes ou des femmes?
Il y a un mix des deux. Autant des hommes que des femmes. C'est vrai qu'en biologie, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de femmes par rapport à...
Et vos collègues, c'est pareil?
Si on regarde ici, c'est vrai que je crois que parmi les enseignants-chercheurs, il y a plus de femmes que d'hommes.
Ok.
Ouais.
C'est vertigineux. Hein.
Ouais, ça paraît même.
Ouais, c'est bon.
On est dedans, ça va être...
Mais oui, c'est ça, quand on est dedans. Hein.
Vous avez posé
toutes
vos
questions,
Oui.
C'est bon pour vous,
bien sûr. Oui.
Ouais, je pense. Après, il faut pas qu'on aille trop loin, parce qu'en plus, vous avez commencé à parler de votre parcours, et ce sera plutôt les questions
de
vendredi.
D'accord.
Lilou, comment c'est à stresser?
Non, c'est juste pour savoir, c'est tout.
D'accord.
D'accord. Vous ne me posez pas des questions trop difficiles, hein.
Non, c'est qui les trois vendredi?
C'est pas
nous. Ah, d'accord.
Est-ce que...
C'était trop génial d'avoir visité le laboratoire LUT. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir notre invitée spéciale à nos côtés. Corinne Barbet, biologiste et enseignante à LUT. Je suis Julien, Tom et Lilou et nous allons poser des questions à Corinne Barbet. Bonjour Corinne.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Très bien. Très contente d'être ici.
Donc on va vous poser quelques questions sur votre orientation et sur votre filière que vous avez choisie pour faire biologiste.
D'accord, merci.
Donc quelle filière avez-vous choisie lors de votre orientation?
Ah, alors moi j'ai plus un parcours biologie, donc j'ai commencé par une licence de biologie, sciences de la vie et de la terre, donc un bac plus 3, et puis je me suis ensuite orientée plus vers la biochimie, biologie moléculaire, donc en première année de master, et au cours de ce master, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage vraiment très intéressant au CHU de Caen, donc sur la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et c'est vraiment là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, j'aimerais bien continuer justement dans le domaine des bactéries. Donc j'ai continué à l'université de Rennes, en fait, en master 2, donc j'ai changé de ville. Et j'ai fait un stage donc à l'INRA de Rennes, alors toujours dans le domaine des bactéries. L'objectif, c'était d'étudier un peu la diversité génomique des bactéries isolées de différents animaux, pour essayer de voir un peu comment les bactéries sont capables de s'installer sur tel ou tel animal. Alors ces bactéries, c'était les staphylocoques dorés, qui provoquent malheureusement des maladies chez l'homme, mais aussi chez les animaux. Et ce stage m'a vraiment plu en microbiologie, et j'ai voulu poursuivre donc vers un doctorat. Donc j'ai cherché des offres de thèse, donc pour pouvoir faire un doctorat ensuite, et j'ai trouvé donc une offre de thèse, enfin j'ai été recrutée à l'université de Caen, donc pour travailler sur un autre sujet de recherche, mais toujours dans les bactéries, sur des bactéries en fait qui provoquent des pneumonies chez le poulain. Et l'objectif donc c'était de caractériser les protéines produites par ces bactéries là pour pouvoir développer des vaccins pour lutter contre justement ces bactéries qui provoquent les pneumonies. Et ensuite, j'ai soutenu ma thèse et puis je suis partie, j'ai répondu à une offre plutôt à l'IUT d'Évreux, donc pour un stage postdoctoral. Et puis après, j'ai continué, il a duré quelques années, mon stage postdoctoral, et puis après j'ai passé les concours en fait pour être maître de conférence donc à l'IUT d'Évreux. Donc voilà, j'ai plus un parcours microbiologie vraiment orienté bactéries.
Ok, merci Corinne. À quelle université êtes-vous allée?
Alors je suis allée à l'université, j'ai commencé à l'université de Caen. Parce que c'était pas très loin de chez mes parents, je suis originaire en fait de Cherbourg, dans la Manche. Et puis après, pour me spécialiser un peu plus dans la microbiologie, j'ai décidé de rejoindre l'université de Rennes. Mais finalement, je suis quand même revenue à l'université de Caen donc pour un travail de thèse. Et puis là, maintenant, je suis recrutée. Les enseignants-chercheurs sont recrutés à l'université de Rouen, mais on est détachés en fait, à l'UT d'Évreux.
D'accord. Est-ce que le fait d'être une femme a dérangé votre parcours ?
Alors, dans le domaine de la biologie, pas vraiment. En fait, j'ai pu vraiment avoir un parcours classique en étant une femme. Par rapport peut-être à d'autres filières, je sais que c'est plus difficile dans certains domaines, comme la physique ou les maths. Mais en biologie, c'est vrai qu'on a la chance de pas rencontrer ces problèmes d'inégalité homme-femme.
Bon, du coup, pour revenir un peu à ce que vous avez dit, du coup, quelle était la proportion de femmes et d'hommes lors de vos études et constatez-vous la même chose de nos jours ?
Proportion d'hommes et de femmes dans mon parcours, je dirais que c'était à peu près 50-50. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant, c'est peut-être plus. Il y a peut-être plus de femmes en biologie que d'hommes. Alors, si je prends l'exemple de où je travaille là à l'UIT, dans notre laboratoire, par exemple, il y a plus de femmes que d'hommes enseignantes-chercheuses.
Ok. Avez-vous déjà eu envie d'abandonner vos études à cause des stéréotypes ou du travail trop compliqué dans cette orientation ?
Non, parce que je pense que j'avais vraiment trouvé ma voie. C'est une passion. En fait, la recherche, c'est vraiment une passion. J'ai eu ce déclic là pendant mon premier stage là au CHU de Caen. C'est là que je me suis dit, je vais essayer parce qu'après, c'est vrai que c'est des études qui sont aussi difficiles. Un parcours qui est long. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est un parcours qui est difficile. Mais j'ai réussi. Je pense avoir atteint mon objectif. Et j'ai pas été forcément perturbée par les stéréotypes.
Pouvez-vous nous citer quelques femmes héroïnes dans les sciences qui vous ont inspirée ?
Oh là là là. Alors je suis désolée, je vais dire la même femme que je pense que tout le monde a cité, Marie Curie. J'ai pas révisé. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que finalement on connaît beaucoup d'hommes du monde scientifique, et alors qu'il y a beaucoup beaucoup de femmes qu'on ne met peut-être pas assez à l'honneur.
Super. Quel poste occupez-vous ?
Alors, je suis enseignante et je travaille aussi en laboratoire, donc enseignante-chercheuse en laboratoire. Donc, c'est un double métier, en fait. J'enseigne à l'Université de Rouen et puis aussi à l'UIT d'Évreux dans différentes formations. Et puis, je travaille aussi en laboratoire. Donc, on a des projets de recherche à monter et puis des expériences à réaliser pour valider ou infirmer nos hypothèses scientifiques.
Pourquoi avez-vous choisi votre métier ?
Alors, j'étais pas forcément partie pour faire ce métier-là au départ. C'est vraiment au cours des études que je me suis plus spécialisée dans la bactériologie. Et c'est vraiment pas pourquoi je l'ai choisi, parce que c'est un métier qui permet d'apprendre énormément de choses. En fait, on acquiert de nouvelles connaissances tous les jours. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce métier, c'est le contact avec les étudiants. Voilà, le fait de pouvoir partager notre expérience et puis de transmettre aussi nos connaissances donc à des plus jeunes, ça c'est vrai que c'est super.
Avez-vous déjà rencontré des problèmes à votre poste ?
Alors des problèmes... Alors c'est peut-être le fait qu'on ait un double métier, enseignant et puis chercheuse. En fait, il faut savoir concilier les deux. C'est de l'organisation, c'est pas forcément toujours facile de passer de l'un à l'autre. Le matin, on va faire des enseignements. L'après-midi, il faut se remettre à la paillasse pour faire des expériences. Donc voilà, il faut que le cerveau suive aussi. C'est vrai que c'est pas forcément facile de passer de l'un à l'autre, vice-versa.
Ok. Avez-vous déjà souffert des stéréotypes par rapport à votre métier? Par exemple, est-ce que vous n'êtes pas capable ou des trucs dans le genre?
Alors non, c'est vrai que j'avoue que j'ai heureusement pour moi, peut-être par rapport à d'autres, c'est sûr, d'autres personnes, j'ai pas été confrontée à ce type de problème au niveau des inégalités hommes et femmes, même au niveau du salaire. C'est vrai que nous, on a la fonction publique, c'est des grilles qui sont définies. Donc il n'y a pas, on ne rencontre pas ce type de problème. Et même par rapport aux stéréotypes, c'est vrai que par exemple au labo, le directeur du labo, c'est une directrice de labo. Et c'est pas forcément toujours le cas, notamment dans les d'autres filières, comme en physique et en maths, a priori c'est plus compliqué de gravir les échelons.
Ok. Être une femme est-il dérangeant chaque jour et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Oh là là, non. Oh non, bien au contraire. Oh non, pas du tout dérangeant. Non, on peut s'épanouir en tant que femme dans son métier ou en tant que maman aussi. Non, c'est pas du tout dérangeant.
Merci Corinne. Nous vous remercions. Nous remercions Corinne Barbet, chercheuse et enseignante à l'IUT d'Évreux. Nous laissons place à l'interview de nos camarades.
Bonjour, aujourd'hui nous recevons Marine de l'association Nous Toutes.
Bonjour Marine.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Très bien. Quand votre association a été créée?
Alors, Nous Toutes, c'est un collectif féministe qui a été mis en place au National en 2018.
Bonjour, pourquoi l'avoir créé?
Alors, au début, il a été créé au niveau du national pour parler notamment des violences sexistes et sexuelles que vivent principalement les communautés des femmes et des enfants. Et puis aussi, du coup, pour lutter contre les discriminations en général. Et suite à ça, quelques années plus tard, des collectifs locaux se sont mis en place. Et donc, par exemple, moi, je fais partie du local de l'Eure, donc de Nous Toutes 27.
Combien de personnes sont engagées dans l'association?
Alors, ce sont des activistes bénévoles, donc ça va, ça vient. Et puis, on n'a pas de tranche d'âge, on n'a pas de milieux sociaux professionnels particuliers. On s'engage quand on en a envie. On a plein de petites mains, il y a plein de façons de militer.
Ok, super.
Je dirais qu'on est peut-être une petite cinquantaine.
Quels mouvements font l'association pour défendre cette cause?
Alors, il y a plein d'actions possibles, notamment des ciné-débats, des manifestations, des échanges publics, des écrits, je pourrais en citer plein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que plus on a de bénévoles, plus on a de têtes pensantes, et plus ça évolue, et plus ça prend forme.
Qu'est-ce que vous aimeriez générer de la part des gens? Enfin, genre leur réaction?
Déjà, générer une réaction, je pense que c'est bien. Déjà, je pense qu'on y réfléchit, c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, je pense que c'est quand même un chemin qui est très individuel dans la réflexion et ensuite dans les actions qui est censé quand même être une réaction très systémique. C'est la société qui doit changer. Donc quand bien même on se déconstruit chacun notre tour, c'est quand même aussi à la société d'évoluer tous ensemble. Et donc pour ça, évidemment, la jeunesse, vous êtes quand même le meilleur miroir de ça.
Comment les plus jeunes peuvent participer au mouvement Nous Toutes?
Alors, Nous Toutes, on a même des mineurs qui sont accompagnés de leurs parents qui viennent. On fait très attention aussi aux sujets qu'on aborde et comment on les aborde, parce que finalement, ça peut être sensible pour tout le monde, pour des majeurs ou des mineurs. Okay. Dès l'instant où on parle de violence, ça peut être délicat. Néanmoins, tout le monde peut s'engager. Comme je disais, on est plein de petites mains. Donc, il y a plein de façons de militer et on a tous notre place.
Ok. C'est quoi le patriarcat?
Alors, le patriarcat, sans partir en philosophie ou en études de sociologie, Grosso modo, ce serait en fait le mot qu'on a utilisé pour parler de l'oppression qui est mise en place par les hommes, donc évidemment pas consciemment et pas à échelle individuelle, hein, mais qui est fait en fait par notre société, tout simplement, depuis des siècles, qui est mis en place et qui oppresse du coup les femmes et les genres minoritaires.
Sur qui veulent-elles faire pression ?
Les féministes ?
Oui.
Je dirais la société, le gouvernement, la loi, la justice sociale, et puis les financements publics, c'est important pour que tout le monde aille bien.
Pour vous, c'est quoi le féministe ?
Alors le féminisme, bon, il y aurait plein de définitions, hein, et puis il y a même plusieurs courants dans le féminisme, on se reconnaîtrait dans plusieurs. Nous toutes en tout cas, on représente le féminisme dit intersectionnel, c'est-à-dire qui reconnaît tous les systèmes d'oppression, et on les pense comme un croisement, c'est-à-dire qu'on peut être victime de plusieurs oppressions, de racisme, de misogynie, etc. Mmh. Et on peut aussi en véhiculer, même quand on est victime, ça faut bien en prendre conscience. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de pointer du doigt les méchants de l'histoire, ça faut bien le comprendre. On est juste là pour essayer qu'il y ait une société qui est saine pour tout le monde et d'avoir le moins de violence possible pour tout le monde.
Est-ce que nous sommes féminisme si nous le sommes mentalement mais qu'on n'agit pas ?
Ben pourquoi pas ? Je pense que dès l'instant où on s'identifie, après, on n'a pas tous le pouvoir, on n'a pas tous l'opportunité de militer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que déjà, de ne pas se faire du mal à soi et aux autres, c'est déjà une bonne base pour le féminisme, ouais.
Comment on peut stopper la chaîne infernale avant les viols ?
Alors, le continuum des violences, on appelle ça en termes sociologiques, et c'est très complexe. Et je pense que la base, en fait, elle commence vraiment quand on est tout petit, de l'éducation. Déjà, d'apprendre à être bienveillant envers soi, envers les autres, d'apprendre à gérer ses émotions, de comprendre que la violence, c'est pas un biais de communication, etc. Déjà, je pense que c'est un peu la base, effectivement. Et ensuite, après, les oppressions systémiques, elles ont des croisements beaucoup plus lointains, c'est beaucoup plus complexe. Et pour ça, heureusement, on a des livres absolument sublimes aujourd'hui, qu'on peut d'ailleurs trouver dans toutes les bibliothèques d'Evreux. Et ça, accessible dès le tout petit âge.
Pourquoi les femmes sont éloignées des matières scientifiques ?
Eh bien, en fait, par des constats, on peut reconnaître que historiquement, elles ont été empêchées d'accéder aux études et au travail scientifique pendant très longtemps. Et d'ailleurs, on a un centre médical à Évreux très connu qui s'appelle Madeleine Bresse et qui est par exemple la figure de française qui a été la première à être diplômée en médecine, mais ça date déjà de 1870. Ça paraît peut-être un petit peu vieux pour nous, mais mine de rien, on parle d'une grosse centaine d'années, ce qui n'est pas énorme. Et donc, mine de rien, ces matières scientifiques, elles ont besoin des femmes.
Comment, nous, à 13 ans, peut-on éviter que les hommes soient supérieurs ?
Alors, je pense qu'à échelle individuelle, c'est très compliqué. Déjà, si on s'offusque un petit peu des réflexions qu'on peut avoir, des idées reçues, des stéréotypes, c'est déjà très bien. Déjà, si on s'en rend compte, qu'on en prend conscience. Et puis après, plus on apprend, plus on décide d'agir, c'est ce qu'apportent aussi les collectifs. C'est de réfléchir tous ensemble, de ne pas réfléchir et agir dans son coin, de mettre des choses en place. Je pense que c'est la force du collectif, elle est là. Et dans les matières scientifiques, par exemple, on parle souvent d'androgénisme. C'est vraiment le fait de mettre en lumière les hommes. Aujourd'hui, ben, plus les femmes font de la science et se sentent légitimes à en faire, c'est déjà une très belle manière de rééquilibrer les choses.
Ben, merci à Marine de l'association Toutes d'être venue.
Merci.
Merci. Merci à vous.
Bonjour à tous.
Où que vous soyez, chez vous, dans votre voiture assis sur un cactus ou dans votre salle de bain, ce jeu est fait pour vous.
Les règles sont simples. Répondez à nos questions sur le thème des femmes du siècle des Lumières et gagnez des points qui servent à rien. Et on commence tout de suite par la question 1. Quelle femme ne fait pas partie du siècle des Lumières ? Louise Dupin, Marie Curie, Laura Bassi ou Sophie Germain ?
Et c'est Marie Curie, car elle ne fait pas partie des siècles des Lumières.
On continue avec la question 2 sur 2 points. Qui est l'intruse parmi les femmes suivantes ? Jeanne Barré, Marie-Anne Lavoisier, Émilie Duchâtelet ou Sophie Germain ?
C'est Jeanne Barré, car c'est la seule femme exploratrice parmi les autres qui sont des femmes scientifiques.
On continue donc avec notre question 3 sur 1 point. Quel était le métier des Lavoisier ?
philosophe, explorateur ou scientifique.
Et les voisins sont des scientifiques.
On continue avec la question 4 sur 4 points. C'est un « Qui suis-je ? » Je suis une femme née dans le 11e arrondissement de Paris le 1er avril 1776 et une ancienne mathématicienne, philosophe et physicienne. Je me suis faite connaître sous le nom de Antoine-Auguste Leblanc car les femmes n'eurent pas le droit à l'instruction. J'ai découvert les mathématiques à travers Archimède. Je réussis à m'inscrire à l'université sous mon pseudonyme. Je suis la première femme à avoir gagné un prix scientifique. Qui suis-je ? Réponse A, Louise Dupin. Réponse B, Laura Bassi. Réponse C, Sophie Germain. Réponse D, une licorne. Réponse E, une pince à linge.
C'est la réponse C, Sophie Germain.
Passons maintenant à la question 5 qui vaut un point. À quel siècle se déroule le siècle des Lumières ?
Au 18e siècle.
Passons à la question 6, qui vaut 2 points qui servent toujours à rien. Je suis née le 20 janvier 1758 et morte à Paris le 10 février 1836. Je suis connue grâce à mes illustrations scientifiques. Je suis donc une chimiste et illustratrice dont les mérites ont été attribués au mari, auquel d'ailleurs j'ai été mariée à 13 ans. Qui suis-je ? Une tortue ? Réponse B, Marie-Anne Lavoisier. Réponse C, Laura Bassi. Réponse D, une casserole. Réponse D, Louise Dupin.
Marie-Anne Lavoisier.
Passons à la question 7, qui vaut 4 points. Je suis une femme qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne au XVIIIe siècle. Qui suis-je ? Olympe de Gouges, Émilie du Châtelet, Louise Dupin ?
C'est Olympe de Gouges.
Le jeu touche à sa fin. Et nous vous laissons tout de suite avec nos camarades et vos points qui servent à rien, juste après la musique.
Diffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
J'ai connu l'échec, la débauche et la dèche. J'ai connu les remarques que l'on fait sur mon sexe. J'ai connu des types bien et des types qui agressent. Je connais pas l'injustice d'un délit de faciès. J'ai appris des leçons de vie dans mes erreurs de jeunesse. Et j'en ferai encore, j'ai pas l'âge de la sagesse. Je cours après le bonheur, je prends de la vitesse. Vers la paix intérieure, c'est ça mon Everest. Anxiété m'appelle, j'ai peur de l'avenir. Peur des discours de haine fait avec le sourire. De la montée des extrêmes et celle des océans, de la nature humaine. Qui tue le vivant. Je sais pas si je veux des gosses, je sais pas si je serai une bonne mère. D'abord faudrait que je sache quel est mon rôle sur la terre. La mienne avait un boss qu'on appelle patriarcat. Elle a élevé 4 gosses, ramené un salaire chaque mois. J'aime parler féminisme avec une meute de mal alpha. Combien de filles vont courir et ne reviendront pas. Mes copines n'écoutent plus les rappeurs misogynes. Elles me disent à chaque fois, fais un feat avec Youssoupha.
Je m'aime sinon tu le feras plus que moi. Plus que moi. Qui le fera plus que moi. Plus que moi.
J'ai connu le minimum, maman n'avait pas le bras long. J'ai connu les hommes, j'ai pas connu mon daron. Mon enfance radieuse, belle comme un piano voix. J'ai connu des adieux qui à la base n'étaient qu'un au revoir. J'ai connu les maîtres de cérémonie dans les HLM. On était des alcooliques anonymes avant d'être célèbres. J'ai connu ceux qui m'ont aimé tant que j'avais des problèmes. Et j'ai connu ceux qui m'ont insulté pour que je progresse. Trop promesses. Y'avait pas beaucoup de saveurs, y'avait pas beaucoup de faveurs. Génération Sangoku, Mylène Farmer. Mes sœurs ne m'ont pas compris, génération désenchantée. Elles me voient en homme déconstruit, je suis encore un homme en chantier. Et ouais ma sœur, t'es une resta. Ne cherche pas à devenir l'égal d'un homme, tu vaux mieux que ça. Mes copines disent que c'est le monde qui est misogyne. Et peut-être que ça suffira pas de faire un feat avec Youssoupha.
Ah, à la vie qu'on mène, au grand rêve
même si c'est la merde, il faut que je m'aime, sinon tu le feras plus que moi.
D'écouter Suzanne et Youssoupha plus que moi.
Bonjour Arwan.
Bonjour Elsa.
Le savais-tu?
De quoi?
Et vous?
Le saviez-vous?
Il va y avoir des changements sur la tour Eiffel et des noms de femmes scientifiques vont y être écrits.
Ah bon? Tu crois que des gens le savent?
Apparemment peu de gens.
Que pensez-vous du fait qu'il va y avoir des noms de femmes scientifiques écrits sur la tour Eiffel?
Bah je pense que c'est une bonne chose, au moins pour avoir l'égalité entre les hommes et les femmes.
Alors, je pense que c'est très bien. Alors, c'est très bien pourquoi? Bah, parce qu'on va pouvoir enfin parler d'égalité et la parité sera respectée. Si l'art montre l'exemple, eh bien, la société pourra aussi s'inspirer de cet exemple. Donc, autant de femmes que d'hommes.
Je pense que c'est une bonne idée, en effet, hein, s'il n'y avait que des noms d'hommes. Que les femmes quand même soient mises à l'honneur, je pense que c'est important et nécessaire.
Je trouve que c'est une très bonne idée de représenter les femmes sur les monuments historiques français.
Je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Ça inclut aussi les femmes dans un monde un peu plus égaux, on va dire.
Bah, c'est très positif, parce qu'il faut... Il faut que les femmes soient mises au même plan que les hommes sur tout ce qui est scientifique, etc., sur toutes les disciplines.
Bah, je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse valoriser le travail des femmes, et dans un monument aussi prestigieux que la Tour Eiffel, bah, c'est très très beau et très remarquable.
C'est une bonne idée.
Ouais, je trouve que c'est une bonne idée et je trouve que du coup ça reflète vachement notre époque, parce que à l'ancienne époque il y avait que des hommes et puis là on voit que les femmes deviennent un peu plus importantes dans la société.
Et ben je pense que c'est une très bonne chose. Enfin les femmes sont mises en avant pour leurs grandes actions et je suis très très contente.
Si vous pouviez choisir certaines femmes à écrire dessus, qui choisiriez-vous?
Alors moi, je choisirais toutes les femmes, qu'elles soient connues ou moins connues, parce que voilà, je crois qu'on mérite toutes d'être sur la Tour Eiffel.
Alors moi, je mettrais Agatha Christie, mais évidemment, c'est pas une femme scientifique. Alors je sais pas, il faut que je sais pas, une femme écrivain, ça peut pas faire de mal.
Alors je choisirais Simone Veil par rapport au droit à l'avortement. Et ensuite, la première femme française qui est allée dans l'espace, à savoir Sophie Adonis.
Je prendrais Julia Simon, parce que c'est une biathlète. Le biathlon, donc, c'est en ce moment connu par les Jeux Olympiques d'hiver. Et je trouve ça bien de mettre au goût du jour cette athlète.
Simone Veil et Rosa Parks. Elles m'ont marqué.
Moi, personnellement, Simone Veil, parce que je trouve que c'est la femme qui représente le plus la France. Et je trouve qu'elle a une histoire aussi très touchante.
Ma maman.
Moi aussi, madame.
Parce qu'elle le mérite.
Ouais, c'est une grande femme.
Oh bah non, on peut pas être n'importe qui quand même. C'est sur la Tour Eiffel, il faut quand même des noms de femmes qui ont fait quelque chose. Enfin, pour moi, je pense. Mais je dirais une qui me revient, bah, c'est Marie Curie. Sinon, si pour rester dans les sciences, c'est pas ça. Parce que sinon, ça aurait pu être par exemple une qui me revient, Simone Veil. Je pense.
Oui, mais c'est pas les sciences.
Mais c'est pas les sciences.
Il y a quelqu'un qui l'a dit, Simone Veil, en plus.
Que pensez-vous du fait qu'il n'y avait que des noms d'hommes écrits et aucune femme?
Ça me surprend pas. Vu le contexte à l'époque et la place de la femme qu'elle avait, c'est pas étonnant qu'il y ait que des hommes, malheureusement.
D'accord.
J'ai pas dit que c'était bien.
Non.
J'ai dit que ça me surprend pas.
Alors, comme c'était au 19e siècle, bon, je ne me permettrai pas de juger, mais je trouve que ça a mis un petit peu de temps quand même, puisqu'on est au 21e siècle, et l'ajout de nom des femmes, ça a été un peu long. Voilà, mais en tout cas, c'est bien que ça arrive.
Je pense que ça correspond à une époque où, effectivement, les femmes... on niait un peu leur capacité, vous n'avez pas forcément les moyens de faire des études. Et voilà, c'est bien que ça change.
Que pensez-vous du fait qu'il n'y avait que des hommes écrits et aucune femme?
Alors je crois que ça représente complètement la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire que les hommes sont énormément mis en avant et les femmes toujours un petit peu discrètes, pas représentées. Et je trouve que c'est très très bien cette initiative et bravo à celle, j'imagine, qui a eu cette idée.
Ça m'étonne pas. Enfin, à l'époque, c'est vrai que le monde était très, très représenté par les hommes. Donc c'est bien aussi qu'aujourd'hui ça change, mais pas étonnant.
Bon, c'était pas normal. Mais bon, c'était peut-être l'époque qui voulait ça. Donc il fallait que ça change.
Moi, je trouve ça dommage, mais maintenant que ça a été changé, c'est bien maintenant.